J'ai toujours eu froid à Amsterdam. Donc pour moi, c'est vraiment. Je suis jamais allé au mois d'août à Amsterdam. Et en même temps, je trouve que c'est pas. J'irai pas à Amsterdam écouter ça l'été, en fait. À chaque fois que je suis allé là-bas, c'était genre grosse doudoune. Tu luttes pour aller jusqu'à l'endroit sur ton vélo. Et
Et t'as un
t'arrives là.
vélo.
À chaque fois, ouais. Mais à vélo, j'ai toujours. À Amsterdam, j'ai toujours le vélo. Et tu fais des petites courses, tout ça. Et après, tu cherches les endroits où il va se passer ces trucs-là, quoi. Et après, tu te déplaces dans toute la ville. Et le vélo, c'est fabuleux. Et je me suis même. C'était au Paradiso, même il neigeait, je me rappelle. Et on caillait grave. On avait juste eu le temps d'aller faire les courses avant. Et on se pointe avec Julien et c'est monté juste à l'intérieur. Une chaleur terrible. Tout le monde était à donf là-dedans. Et tu ressors, il est tôt. Hein. Le mec, il est capable. Le truc le plus long que j'ai entendu de lui, c'était 8-9 heures. Il est capable de rester derrière ses platines 8-9 heures. Maintenant, peut-être plus, parce que c'est vraiment une. Aujourd'hui, c'est vraiment une star, je pense. Vraiment, le mec, il tourne vraiment dans Berlin. Enfin, quand je le vois au théâtre de la ville, c'était avec. Je retrouverai tout à l'heure une chorégraphe. Je pense que lui, aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de la techno, c'est vraiment le mec super pointu. Au niveau de la sonorité, au niveau de combien on peut mettre de.
Ok. Mais donc t'étais resté combien de temps à Amsterdam?
Dans le club, je sais pas, 10 heures, 12 heures.
Et ça se découpe comment le temps, ces 12 heures-là?
Bah, c'est non-stop.
Non, mais pour toi. Tu fais une pause au bar de temps en temps, une pause au shop de temps en temps?
En plus, au Paradiso, c'était. Il y avait mon cousin et sa copine qui faisait VJ en fait. Donc on avait des passes.
C'est quoi VJ?
C'est quand tu t'occupes des images, il y a un mec qui fait le son et après tu as des grands écrans. Elle se chargeait de projeter des images. Et je me rappelle que c'est elle qui faisait ces petites boules là, en fait, les boules qui tapent dans les coins, genre un petit peu Atari, tu vois, c'était un peu ça l'esprit, hein, finalement. Et donc nous, on avait des passes, very important person, c'était ça le truc. Donc en fait, on n'arrêtait pas de passer et devant et derrière. Il y avait Assis qui était là, hein, le colocataire aussi. Je sais pas, hein, le truc c'est que ça passe super vite. À chaque fois ces soirées, tu dis que t'as passé 10 heures, mais tu te rendais jamais rendu compte, quoi. Quand ils ouvrent les portails et que tu te rends compte qu'il fait jour, t'es là, waouh. On se rend jamais compte des heures, finalement.
Ouais, mais t'as une petite idée quand même. Qu'est-ce qui se passe derrière? Quand t'es VI.
Very important.
Ouais, j'ai compris.
Derrière, ça discute. Amsterdam, ça discute business pas mal finalement. Ces mecs-là, ils brassent beaucoup d'argent finalement. Les plus gros trucs que j'ai vus, c'est 4 000, 5 000, 6 000 personnes qui payent leur soirée. C'est assez cher finalement. Beaucoup de gens dépensent beaucoup d'argent. La plupart du temps, il y a du gros business derrière. C'est vraiment les mecs qui font de la programmation, c'est les mojos, etc. Ça discute derrière finalement. C'est beaucoup de business en fait. C'est un peu cocaïne et ça parle thune un peu en fait.
En fait, c'est comment là?
C'est plutôt bar en fait. Bar, restaurant, pyramide de cocaïne.
C'est pas accessible à tout le monde. T'as un bar VIP quoi.
Ouais.
Mais t'as un bar pas VIP aussi.
Ouais.
Qui allait pas.
Bah non, vu qu'on avait le truc. Et c'est gratuit dans le truc VIP.
Et par exemple, t'as des conversations pendant les 10 heures en question?
Ouais, carrément. L'autre côté, ouais, je me rappelle. Je me rappelle, ouais. Je me rappelle avoir discuté avec des gars.
De quoi?
Bah, en fait, business. En fait, je m'étais retrouvé justement avec un mec qui s'appelle Dan, qui est le dernier à être rentré dans l'équipe Mojo. Mais bon, il y a ça il y a quelques années déjà. Mojo, c'est une boîte de programmation électronique sur Amsterdam. Et c'est celle qui organise les plus grosses sur Amsterdam. Et le mec, il est... je crois qu'il a... À l'époque, il avait 23 ou 24 ans. Et c'était ça son taf, en fait. Donc ça me fascinait de voir un mec si jeune, aussi défoncé, et de voir qu'il était déjà placé dans des grosses boîtes. Et son boulot, c'était de trouver les jeunes qui font de la bonne musique. Et après, c'est la communication, faire des affiches, trouver les bons DJ, les bonnes places. Et lui, c'est un milieu un peu trippé, mais je trouve ça assez fascinant. Donc lui, avec lui, j'avais pas mal discuté, je me rappelle. Et puis j'aimais beaucoup Assi, le colocataire de mon voisin, qui était là aussi. Et lui, il fait des sites internet. Et en fait, c'est Amsterdam, il y a beaucoup de juifs en fait, qui tournent autour de la musique électronique. Alors, je sais pas pourquoi... en tout cas, je sais que c'est au niveau du VJing, au niveau des soirées, au niveau de la haute VIP, il est assis et juif. Et la copine de mon cousin, qui faisait le VJing ce soir-là, est juive aussi. Et ils sont super organisés, méthodiques. Il y a une sorte de travail qui est vraiment super carré. Ils sont vraiment super pointus au niveau de l'informatique. Les mecs, ils sont vraiment... Enfin, le peu que je connais à Amsterdam, ils sont au niveau site internet, au niveau esthétique, visuel, ils sont super pointus.
Quand est-ce que tu... C'est une autre question qui me tient à cœur, bizarrement. Mais c'est une toute petite question. Et quand est-ce que tu retournes danser? C'est le hasard ou c'est pas le hasard?
En fait, ouais, des fois c'est super ridicule, hein, mais je me rappelle avoir dansé toute une soirée à la recherche d'un doigt. Alors que au tout début de la soirée, j'avais un doigt qui m'était passé sur le visage, et ça m'avait fait un truc de folie, en fait. Et j'étais persuadé de pouvoir retrouver la personne. Alors je sais même pas si c'était un garçon ou une fille, mais j'étais persuadé de pouvoir retrouver la personne. Et j'ai dansé pendant, 2-3 heures autour de l'endroit où j'étais, en espérant retrouver ce doigt. Alors je tournais ma joue comme ça, en me disant, est-ce qu'il va repasser, tu vois. Non, je sais pas, c'est un peu les hasards, quoi. Hein. Je pense que t'as envie de danser. D'un seul coup, hop, t'as soif, tu t'en vas, t'as envie de pisser. Enfin, Bah, des fois, en tout cas, le son, c'est faut que ce soit vraiment bien. Si t'es pas pris à 100%, moi, j'arrive pas à danser. Je veux me dire, il y a pas longtemps, je suis allé à une fête, c'était à l'endroit où je travaille. Et c'est un des jeunes fils du directeur qui faisait une fête, quoi. Et le son était vraiment mal calculé. C'est-à-dire que tu rentrais dans l'endroit, c'était déjà super saturé. Donc les gens, ils pouvaient même pas rester. Même pour discuter, pour... Et c'était le début. Je suis arrivé en plus assez tôt. Il était minuit, un truc comme ça. Et c'était déjà super à donf. Donc les gens se sont même pas installés là où il y a du son. Tellement c'était fort et saturé. C'est une sorte de méthode. Genre, tu laisses rentrer les gens... Tu leur fais un son, genre tout, où ils peuvent parler, sans pousser les voix, sans... Et petit à petit, une fois qu'ils ont commencé à être à peu près installés, tu commences à monter. Mais tu leur mets pas le paquet direct. Parce que, toi, c'est un peu... Pas agressif, quoi, mais tu prends pas les gens comme ça. C'est une sorte de douceur, faut les prendre par le bon côté. Et finalement, je pense que ça, c'est le boulot d'un DJ, vraiment, de sentir ce qui est en face et de savoir réagir en fonction de ce que... La façon dont les gens réagissent. C'est pas t'as programmé un truc et tu balances. Non, c'est en fonction de t'agis.
Mais toi ?
Bah moi je suis. Tu vois, genre, limite, je suis sûr que c'est eux qui décident au moment où je vais danser. Tu vois, ils vont me faire discuter 5 minutes et puis d'un seul coup, wow, t'es reparti. Mais il faut écouter. Quand tu feras ton montage, c'est important que tu glisses. Parce que je suis sûr que même. Laisser des creux de 20 minutes, tu vois, c'est important de pas remplir tout, en fait, de pas forcément avoir à boucher des trous sans arrêt. On n'est pas obligé sur 12 heures, t'es pas obligé de danser 12 heures, tu vois, limite c'est impossible. Ou faut être vraiment trippé et c'est des musiques de. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une sorte de. C'est un grand navire qu'il faut savoir gérer.
Mais ton humeur extérieure qui joue aussi. Pas comme ça.
Bah, je suis sûr que Ricciottin, il arrive à faire que tout le monde pète les plombs au même moment. et que ce soit genre général, qu'il n'y ait pas une partie dans ce coin-là qui a une enceinte qui est un peu trop forte et eux ils pètent les plombs alors que les autres ils entendent rien. Lui c'est
toi. Ou ceux qui ont une journée chouette et qui.
T'es pris par le truc, peu importe. Peu importe ce que t'as vécu, il arrive au bout d'un moment. C'est pour ça qu'il faut pas écouter ça 20 minutes. C'est important de se laisser guider par le truc. Je vous en refais écouter un petit morceau. Aujourd'hui, il travaille au Milky Way. C'est un autre club. Lui, il est DJ aussi. Il est tombé amoureux d'une Hollandaise. Il revenait des États-Unis, super trippé. Je pense qu'il a fait une année où il s'est vraiment bien défoncé. Et il a découvert l'électronique, je pense, le monde des jeunes défoncés de Houston, Dallas, tout ça. Il y a vraiment pas mal de déchirés là-bas. Il est rentré, il était un petit peu bien parti là-dedans. Et il cherchait, il faisait du théâtre, il faisait de la photo, il cherchait un truc. Et il est tombé amoureux de cette Hollandaise à Amsterdam. Et en fait, ils sont venus vivre à Paris pendant quelques années, juste là, à côté de chez moi. Et le jour où il est parti, il m'a dit, en fait, moi, ça me faisait vraiment... J'étais super content pour lui, mais aujourd'hui, il me manque encore terriblement. C'est vraiment quelqu'un qui a compté vraiment... Le peu d'années qu'il a passé à Paris avec moi, c'était des moments incroyables. Et elle souffrait vraiment à Paris, en fait. Et à la fin, c'était ses ovaires. Elle a fait une infection aux ovaires. Et en France, ils s'attardaient à la prendre en charge et tout ça. Donc, elle est vite rentrée à Amsterdam. Et lui, il n'a jamais quitté l'endroit. Et en fait, il s'est fait une formation d'ingénieur du son. Donc aujourd'hui, il pose les sons dans les boîtes de nuit, en fait. Le Jimmy Woo, le Milky Way, il pose. J'ai déjà fait ça avec lui au café d'Anvers. On l'appelle en lui disant ouais, t'es ingénieur du son, on te téléphone, est-ce que tu peux me poser un son dans telle salle?
C'est où le café d'Anvers?
À Anvers. Et en fait, on l'appelle à Amsterdam, on lui dit voilà, il y a je sais plus quel artiste qui passe au café d'Anvers. Il veut t'avoir comme ingénieur du son, parce que t'as une façon de calibrer, je sais pas, les enceintes. Donc hop, le mec il fait, on a fait 200 km ou 300 km en voiture, il installe le son, pop, 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 1, 2, 3.
C'est super Anvers.
Voilà, ouais, carrément. Et le café d'Anvers, c'est un lieu mythique, c'est vraiment incroyable. En fait, c'est mon demi-cousin. C'est le fils du nouveau mari de ma tante. Mais on est super... On est super proches. Depuis qu'il est parti à Amsterdam, on a été un peu, ça a été un peu chaotique. Il y a eu des périodes où un petit peu d'incompréhension. Mais c'est quelqu'un avec qui je m'entendrai longtemps super bien, je pense.
Et il est minimaliste?
Non. C'est dans sa musique?
Dans son appart?
Non, du tout, non. Lui, c'est
dans plutôt... sa vie, quoi.
Ouais, non, plutôt. C'est quelqu'un de chaleureux, plutôt. Et d'origine, je pense, française et espagnole. Et lui, c'est un peu plus... il leur fait de la French touch, là-bas. Enfin, il leur fait un truc vraiment super mignon, super fête, disco. Ça marche bien. Ça s'appelle Le Clic. Là, j'ai quelques morceaux qui sont... c'est vraiment super bien. Ce qu'il fait en ce moment, là, ça commence à déchirer. Le Clic commence à vraiment pousser. Ils ont une bonne... ils commencent à trouver des bonnes salles et tout ça.
Tu dis il au pluriel?
Bah, en fait, ils sont quatre. Il y a la fille qui faisait le vidjing, là, qui est aujourd'hui plus sa copine. Il y a Dan, qui est un vrai Hollandais. Et Aaron, qui est... ils appellent ça un smiley. C'est le mec qui vient un peu pour faire n'importe quoi sur la scène. Ouais, parce que c'est un peu glauque quand tu vois des DJ faire un peu... Donc ils utilisent un mec qui vient pour faire tourner un peu la tête. Il vient avec souvent un truc pour hurler dedans. Il chante aussi, mais bon, c'est retravaillé derrière. Quoi, mais... Le truc, c'est ça. En club, c'est super dur aujourd'hui de ne pas mettre de voix, en fait. Le hit, c'est ça a de la voix. Il y a une chanteuse, en fait. moi, c'est trop rigolo, en fait. C'est pour ce qu'il fait, c'est, j'y ai pensé, c'est sûr. Mais là, sur les cinq éléments, mon diaporama, j'ai cherché une musique électronique. Et forcément, j'ai pensé à mon cousin, mais il a ce côté funky, rigolo, enfantin, qu'il faut qu'il garde. Et donc, ça colle pas du tout avec mes images dans le fond. Non, non, pour mon dossier, je bosse avec des mecs qui font de la musique expérimentale, genre les Calmeo Vulgaris. En fait, c'est Jean-Sébastien Mariage, qui fait un boulot terrible. Mais c'est loin de Richie aussi. Thank you.
Je précise que nous venons d'écouter une pièce de Caméléo Vulgaris intitulée Opiniâtre. Caméléo Vulgaris, c'est Jean-Sébastien Mariage à la guitare électrique et à l'amplificateur, ainsi que Frédéric Gallier à la basse électrique et à l'amplificateur. Ce duo existe depuis 1994 et a réalisé de nombreux concerts en Europe ainsi que 4 albums. Et d'ailleurs, il cherche en ce moment un éditeur pour un enregistrement en cours de finalisation. Vous trouverez plus d'informations sur le site jean-sébastien-mariage.free.fr. Jean-Sébastien Mariage, tout attaché, .free.fr.
Les expériences qu'ils m'ont fait faire avec le festival Densité, des choses comme ça, ça c'était sur Paris, il y a une salle que j'adore, c'est les Instants Chavirés à Montreuil. Il y a une programmation que je trouve un peu tripante, en fait, des choses que j'ai jamais entendues ailleurs et que j'entendrai sûrement pas dans les radios ou sur les CD de chez des gens. Ça, c'est vraiment des gens qui, on sait même pas d'où ils sortent finalement. Des mecs qui font de la musique avec des grains de riz sur des membranes de basse, d'enceinte. Ils mettent un micro, ils font jouer les grains de riz, et plus tu balances, plus le grain de riz il se remue, plus tu descends, moins il se remue. Alors, après, il y a plein d'autres trucs, quoi, une balle de... Comment ça s'appelle? De baby-foot. Plus le grain de riz qui fait Donc si tu vois faire, tu te dis, attends, il est en train de faire n'importe quoi, c'est un peu n'importe quoi, mais derrière le mec il est en train de... Il joue avec la balle de ping-pong, avec la vibration du truc. Et, là, wow. Et je suis sûr qu'il passe des journées à faire ça, tu vois.
Il y a quand même un vrai truc de drogué aussi, quand même.
Bah, je pense que c'est ça dont je parle, en fait. Hein.
Non, mais j'ai compris, mais c'est peut-être important de le dire à un moment.
Ouais, ouais. Enfin, ouais, c'est clair que...
C'est une musique qui fonctionne avec la drogue. La drogue qui fonctionne avec la musique.
Ouais, ouais, mais en même temps, j'ai eu des expériences où je pars sans la drogue, vraiment. Vraiment, c'est sûr. Que c'est fait, la drogue va avec, ou c'est une drogue, ou cette musique-là, même le mec qui fait la musique, je suis sûr qu'il est... Mais la drogue, c'est quoi? C'est l'omnibulation, en fait. Pour moi, la drogue, c'est genre, tu peux pas t'en passer. Donc tu fais ça tous les jours. Moi j'ai été drogué à des trucs qui sont un peu hallucinants. Voilà. On peut parler de la télévision, j'imagine. On peut parler du tennis, d'un sport. Donc, tu peux être omnibulé par quelque chose et ne faire que ça. Ton cerveau il est pris par une balle jaune finalement. Tu vas courir tous les jours, tu vas t'entraîner tous les jours à courir après un son. C'est-à-dire, tu te réveilles, tu dis aujourd'hui je vais trouver, et tu passes des heures et des heures et des jours à trouver un son. Bon, bah c'est sûr que pour la concentration, pour la patience, j'imagine que beaucoup fonctionnent, même au tennis, ils fonctionnent, enfin Yannick Noah le disait, hein, genre je fume un gros pétard et je me mets à courir après une balle jaune, mais c'est le délire, toi, genre, je suis le meilleur du monde, quoi, genre je vais pas lâcher, tu vois, t'es complètement omnibulé par le truc, et genre t'es prêt à sauter n'importe où, tu vois, j'ai you. Lui, il fumait en jouant, parce que ton cerveau, il est dessus. Genre, tu vas pas la lâcher, quoi. C'est fini, t'es scotché pendant 3 heures, 4 heures. Effectivement, moi, je crois que c'est un truc de... Mais même j'appelle Jean C, qui fait de la guitare, là, il est fait de la musique improvisée avec sa guitare. Il fume un petit peu, mais je suis sûr qu'il passe des journées défoncées sur sa guitare sans avoir fumé un joint. Il est parti, tu vois, genre c'est comme une liberté de concentration et d'omnibulation qui se permet. C'est-à-dire que le reste du monde aujourd'hui ne compte pas, c'est que ma balle de tennis, ma guitare, mon son. C'est une drogue, ouais, c'est clair, c'est je fais que ça. Et j'arrive pas à réfléchir à autre chose. Mais il y a ça, c'est sûr que dans Ricci Ottin, il y a ce côté drogué, hein, c'est sûr, ou omnibulé. Pour moi, c'est à peu près pareil, drogué, omnibulé, c'est tu vois plus la réalité. Ou t'as pas envie de la voir, en tout cas, c'est juste un choix. Je vais retourner mes trucs.
la sortie du Paradiso, la sortie et la descente.
En fait, c'est Paradiso, le truc, c'était Plastic Man, c'était pas Ritchie Hawtin, donc c'était pas du tout festif, pas du tout énervant finalement, c'était plutôt chill out finalement, ou contemplatif. On était peut-être 300, 400, un truc comme ça. C'était début, en fait c'était fin de soirée en fait, ça s'était passé. C'était du genre de 4h, 6h, et après on avait fini, c'était genre le brunch chez, comment elle s'appelle cette fille? En tout cas, la fille qui faisait le vidging, là, je ne me rappelle plus de son nom.
Un nom hollandais ?
Non, c'est... Non, c'était pas une... je sais plus comment elle s'appelle. Il est resté longtemps avec elle. Je pense que c'est toujours sa maîtresse, mais... En tout cas, c'est une fille super hallucinante, mais... Je crois qu'elle elle joue un peu avec lui, ou je sais pas trop. Comment elle s'appelait ?
Sa copine n'était pas là.
C'est sa copine.
Renske, il a quitté Renske en fait. Il a quitté Renske, il s'est retrouvé avec cette fille.
Qui s'appelle... Ah, donc c'est pas la parisienne des Aubert.
Non.
C'est moi qui suis pas.
Non, il y en a eu plusieurs. Hein. Mais il est.
Il a le droit. Hein.
Ouais. Et là, de nouveau, il fait chanter une fille sur son dernier album. Là, et de nouveau, ils sont séparés.
Et Renske, tu l'as revu?
Renske, la fois que j'y suis allé, ouais, on était voir justement Ritchie Hawtin. Et lui, il travaillait.
Faites que ça, je
lui travaillait, Julien travaillait, et elle, on l'a retrouvée là-bas. Ouais, moi j'adore cette fille-là, c'est sûr que. Et en fait, voilà, pourquoi c'était pas. Parce que, en fait, on avait fini aux champignons, c'était ça. Pourquoi ça s'était bien terminé? Parce qu'en fait, on avait été au brunch et pour redescendre, elle nous avait fait les champignons.
Et comment ça s'est terminé, les champignons?
Bah, tout de suite, t'es calmé, hein. Toi, genre, c'est...
Bah, on fait pas ça tout le temps, non? Pourquoi les gens font pas ça tout le temps, de finir aux champignons?
Parce que toi, là, il est 9h du matin. Normalement, à cette heure-là, tout le monde va se coucher ou travailler. Mais là... Là, c'est l'heure de plus rien comprendre. En fait. Champi, tu vas t'allonger, en fait. Champi, toi, le truc, c'est qu'il faut regarder. Moi, je trouve que ça finit super bien. Parce que le truc, c'est que t'es un peu comme ça, là. Donc, fumer, ok, ça fonctionne, quoi. Mais le truc, c'est tu prends des champis et t'es obligé de... Ton corps, il est complètement inconnu et tu regardes ce qui se passe. Et là, tu t'as... Waouh. Et t'en as pour déjà quelques heures.
D'accord. Donc dans une petite maisonnette coupée.
Ouais, voilà, ouais. Mais il y avait terrasse, il y avait musique, il y avait DJ, champagne.
Ouais. Donc elle n'était pas au Paradiso.
Elle a passé la soirée au Paradiso aussi, ouais. Et après on enchaînait.
Et elle a ramené ses DJ, champagne, machin.
Non, c'était d'autres. C'est Julien avait mixé un peu.
D'accord.
En fait, on avait fini la soirée. Elle, une fois qu'elle a plié son matériel, on est parti, mais on traînait vraiment. Je crois qu'on est arrivé chez elle, il devait être, je sais pas, 15h, un truc comme ça, tu vois. On a fait le brunch. On a dû commencer à manger vers 15h, tu vois. Genre, on avait fait des blinis, on avait fait des trucs comme ça. Des tartes. Et donc là, ça fait, tu vois, genre, ça fait des bonnes descentes. Mais bon, le truc à Paris, c'est ça, c'est trouver des bons produits, c'est super bien. C'est ça qui me rassure aussi, Amsterdam, c'est pour ça que je fais beaucoup plus la fête. Et en plus, avec lui, c'est super facile, toi, il a toujours des bons plans. C'est les gens ne prennent pas n'importe quoi. Je suis allé 2-3 fois cet été en Technival. Bon, bah, il y a tout, c'est sûr, hein, mais ça fait un peu flipper, tu sais pas ce que tu prends. Avec Laurent, on est allé voir un petit peu au niveau de la sécurité. C'est la Croix-Rouge qui fait ça, en fait. Il y a des testeurs, des trucs comme ça. Bah, ça craint, toi, genre, quand ils te disent... t'en as acheté deux, et puis au bout du troisième, ils te disent, bon, c'est toujours de la merde. J'ai dit bon, tant pis, tu vois, genre, il y a que ça qui traîne, quoi.
Tu penses qu'il y a des stores de la Croix-Rouge et des surprises ?
Non, c'est juste que les produits sont super. Il y a vraiment.
Il n'y a rien.
Bah, ouais. C'est, tu sais, après, y a, au niveau de ce que tu cherches, il n'y a pas grand-chose. Après, il y a plein d'autres choses, mais on, tu sais pas trop ce que c'est. Là, tu dis tant pis, bon, ça va, au lieu d'en prendre un, je vais en prendre trois, et voilà, quoi. Et, non, ça, c'était... Ouais, c'est quand même des grands moments. Bon, c'est sûr que là...
C'était où, tes climats ?
Le plus gros que j'ai fait cet été-là, c'était vers Meaux. Non, pas du tout. Vers l'autre côté. Vers Dreux.
D'accord.
Mais c'était super étrange. Parce que c'était super organisé, il y avait plein de flics tout autour. En fait, on était sur la piste d'atterrissage de l'OTAN, en fait. Donc c'était une surface plane, 2-3 routes, piste de décollage, dessin de système tout du long, et une barrière tout autour. Une barrière avec un flic tous les 150 mètres à peu près. Dès que tu allais pisser, il y avait 3 flics qui se rapprochaient. Mais l'enclos était à peu près, faisait, je sais pas, 7-8 km carrés, quoi. C'était vraiment énorme. Mais on était, il y a eu jusqu'à 50 000 personnes à l'intérieur, un truc comme ça. Ou sur 4 jours, ou 5 jours, ils ont eu 300 ou 400 000 personnes. Quoi. Mmh. Et la nuit, c'était le moment le plus hallucinant, je pense, c'était des hélicoptères. Alors, on se sentait entouré, tu vois, c'était vraiment super étrange. Et la nuit, t'avais des flics, il y avait deux hélicoptères qui tournaient autour et qui nous éclairaient avec leur lumière.
Un autre genre de couvert.
Ouais, voilà. Mais c'est trippant, tu vois. Genre, c'est sûr que là, on se sentait vraiment limite en prison, tu vois. C'est sûr.
C'est plus du liquide. C'est plus du liquide amniotique.
Mais je trouve que c'est hallucinant. De mettre autant de flics, sachant qu'il y a autant de drogue à l'intérieur.
Mais ça n'avait pas un effet trippant quand même ?
Bah, carrément, c'est le plus grand moment de la soirée. Toi, quand les flics sont passés au-dessus de nous et qu'on se sentait entouré, ce côté genre encerclé de flics, pour moi c'était vraiment le moment le plus fort du. C'était vraiment naze, hein, ce technival était vraiment naze. Mais ce moment-là, je m'en souviens comme. Ouais, c'était, pour moi c'était. Comme un abrutissement toléré. Toi, c'est hallucinant de voir autant de mômes, mais raides défoncés. Alors, il y en a plein qui tournent à la kétamine, il y en a plein qui tournent à des trucs. Quand tu les vois à l'intérieur, et sachant qu'il y a autant de flics à l'extérieur, tu te dis, mais comment ça se fait? Tu dis, mais c'est quand même trippant de savoir que tout le monde. Enfin, tout le monde.
Il y a zéro fou, de toute façon.
Nous, on est passé tranquille. On était en voiture de touristes, tu vois, genre, hein, qui arrivent avec des camions, ils ont fait ça tout l'été, ils ont des barbes jusque-là, des cheveux jusque-là. Eux, ils sont contrôlés, mais ils sont malins, tu vois. Il y en a un paquet de malins, vu la quantité de drogue qu'il y a à l'intérieur. Il y en a un paquet qui...
Genre, on encadre, on sait ce qui se passe, quoi. Enfin,
on était même filmé, tu vois, genre, c'était filmé, la queue qu'il y avait pour arriver, la gueule. J'ai même entendu parler de reportages sur la gueule des gens avant et après, tu vois, genre.
C'est pas un piège ?
Non, non, ils filmaient les gens pour la télé, tu vois. Genre, dire aux informations, il se passe ça, ils vont encore détruire le terrain. Là, on a tout fait pour qu'ils détruisent que le terrain de l'OTAN, c'est facile, nettoyable. Parce qu'ils ont navigué entre plusieurs endroits, en fait, ici.
Comment tu fais pour détruire le terrain de l'OTAN ?
Bah là, tu pouvais pas, tu vois. Non, non, en fait, l'idée, c'est trouver un terrain qui peut... supporter le passage de 300 000 personnes dans un week-end, en fait, avec tous les déchets que ça comporte, etc. Donc ils ont trouvé des terrains, comme tu te rappelles, l'histoire du Larzac, c'est quand même un endroit un peu protégé, etc. Et t'as 300 000 jeunes qui arrivent et qui défoncent tout en 3 jours, sacs plastiques, déchets, etc. Bon voilà, l'OTAN, encerclé avec des flics tout autour, bah, je dis pas que c'est mieux, quoi, mais... quelque part c'est super naze. Moi, à l'intérieur c'est vraiment assez glauque finalement, hein. Tu te dis putain c'est que des robots, tu vois, c'est une sorte de moutonnerie générale, on est tous là, c'est assez, moi je trouve que c'est assez triste, voyant avec les années et tout ça, ce genre d'ambiance c'est quand même super bizarre, ouais, à l'extérieur autant de personnes, C'est quand même un truc de zombie.
T'es un renégat.
Comment ?
T'es un renégat de la scène.
C'est là où je me sens plus clubber. C'est là où je me sens par rapport aux toffers qui sont en treillis, en toujours habillés, un peu. On dirait qu'ils sortent de guerre, tu vois. C'est un peu des mecs du. Moi, je me sens un peu plus coloré, j'ai besoin d'un peu de chaleur. Je prendre des drogues où il fait froid et tout ça, ça me fait chier. Obligé de danser pour avoir un peu de j'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de. Le club me va beaucoup plus. Après, j'ai Laurent qui me propose un peu de free, ça c'est cool. Mais c'est genre, on en fait. Lui, il est papa, donc on en fait 3 à 4 par an. Pas plus. Lui, il a un réseau. Moi, j'ai pas trop. Depuis que Julien est parti de Paris, et la plupart ont arrêté finalement. Genre, mes copains ou moi, je sortais quand je suis arrivé à Paris, tout le monde a un peu arrêté en fait. Et c'est pas si mal que ça. Enfin, je pense à Seb par exemple, lui à cette époque-là, on en faisait pas mal. Genre, c'était la fin du Boys, je sais pas si c'était le Boys.
Vermessie, là.
Ouais, voilà. Bon, là, c'était des années un peu tout bizarre pour moi. C'est sûr que là, j'en prenais plein. Hein. On sortait, là, à cette époque-là, on sortait beaucoup, quoi. Mais ça, c'est un peu fini. Bah, c'est sûr que l'enchaînement de fêtes fait que tu n'as plus la notion de la réalité au bout d'un moment, c'est sûr. Et cet été, j'ai eu un petit retour un peu violent, c'est sûr.
C'est-à-dire ?
J'ai cassé une voiture. Mais j'étais raide. Tu vois, la route, elle faisait comme ça devant moi. Et le truc, c'est que je devais faire ce truc-là. Je devais transporter du matériel de là à là. Et j'étais payé pour. Et j'étais incapable de le faire, sauf que je devais le faire. Et donc j'ai appelé des copains pour me remplacer. Et tout le monde était occupé et tout ça. Et je me suis fait un peu une autre drogue en me disant ça va me fixer droit. Et en fait, ça l'a pas fait. Hein.
Ouais, alors
j'ai cassé l'embrayage en fait. En voulant sortir la voiture du parking, c'est un peu une montée comme ça. Et j'étais en marche arrière et à force d'accélérer et en ayant le frein à main serré, j'ai pété l'embrayage. Ça a fumé, mais grave.
T'avais pas vu qu'il y avait le frein à main ?
Si, pourtant je l'avais dans la main.
Tu l'avais pas baissé, quoi ?
Non.
Et t'as insisté ?
Ouais, à fond.
Mais ça va, c'est pas très grave.
Bah si, quand même, toi, c'est un peu...
C'est pas...
J'ai pété. Non.